Elles ont défendu le remain, le maintien dans l'Union européenne, de manière très loyale par rapport à la ligne gouvernementale, sans pour autant, effectivement, défendre avec enthousiasme le projet européen. Elle était à l'image, en fait, de cette campagne, voire encore plus en retrait, encore plus discrète. On la voit peu dans les cercles politiques ou à la Chambre des communes, mais elle occupe quand même depuis 2010 un poste très important, qui est celui de ministre de l'Intérieur. Donc elle a été quand même très, très visible sur le terrain, avec une image peut-être impropre de femme à poigne, parce que je pense que c'est surtout la fonction qui l'exige. Au sein du Parti conservateur, donc avant 2010, elle a été ce qu'on a appelé une démodernisatrice du Parti conservateur, donc très progressiste sur les questions morales et sociétales, même si elle a été quand même un ministre de l'Intérieur, comme je vous l'ai dit, assez fidèle à la ligne très libérale, eurosceptique, engagée par le gouvernement canadien.
6 ans au ministère de l'Intérieur, un ministère à la tête duquel de nombreux prédécesseurs se sont cassés les dents. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'est pas cassée les dents ?
Il faut savoir que Theresa May faisait partie quand même des figures importantes du parti avant 2010. Et même avant 2005, c'est-à-dire avant l'élection de David Cameron à la tête du parti, elle était vraiment une des figures importantes, une des ténors du parti. Elle était notamment connue dès 2002 pour avoir prononcé un discours qui fait date dans l'histoire du Parti conservateur après Thatcher. C'est le fameux discours du Nasty Party, dans lequel elle dénonce finalement l'image d'un parti conservateur totalement miné par des années de thatchérisme inhumain, indifférent. Et elle dit, voilà, il faut absolument changer cette image, réformer notre image de méchant parti, devenir un parti plus compatissant, plus bienveillant, plus ouvert à la société, aux inégalités, à la pauvreté. Donc elle était très connue, ce qui explique effectivement qu'elle a occupé tout de suite un poste ministériel très important, qu'elle a été une des figures importantes des gouvernements Cameron. Elle s'est rendue relativement populaire, mais avec quelques nuances, parce que d'une part, elle a suivi la ligne gouvernementale, sans véritablement en dévier. Et en même temps, elle a quand même essayé ponctuellement d'adopter des mesures un peu plus progressistes. Par exemple, elle a essayé de lutter contre la discrimination dans les services de police. Elle a essayé de lutter contre la discrimination face à la criminalité et à la délinquance. Par exemple, elle a interdit le contrôle et la fouille en disant que c'est une source de discrimination contre les jeunes gens noirs. Elle a mené des micro-mesures qui l'associent un peu à cette image de conservatrice modérée qu'elle pouvait avoir avant 2010. Donc à la fois ferme et bien dans la ligne musclée du Parti conservateur, et en même temps assez ouverte, on va dire, sur les enjeux sociaux et sociétaux.
En annonçant sa candidature, Theresa May a été très claire, elle a martelé « Brexit means Brexit », le Brexit veut dire Brexit. Pourquoi a-t-elle autant insisté ?
Le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire, le Parlement est souverain, mais là, il était important pour elle peut-être de rassurer l'opinion publique en leur disant, voilà, je sais que le Parlement est souverain, mais votre parole a été entendue, elle sera effectivement matérialisée en quelque sorte. Donc c'est une reconnaissance effectivement du résultat du référendum, qui est d'autant plus important que ce référendum a été fait de manière consultative. La Constitution ne reconnaît pas le référendum comme une décision qui est mise en œuvre immédiatement. C'est pour ça que ce qui va poser problème, c'est qu'il lui faudra nécessairement un vote du Parlement, en espérant que les députés vont aller dans le sens du verdict populaire. Je pense que ce sera le cas. Mais ça pose quand même problème, parce qu'on sait que les députés sont aux 2/3 opposés au Brexit. Je pense qu'elle l'a fait à la fois pour rassurer l'opinion publique et aussi pour envoyer un signal aux députés en leur disant, voilà, vous allez être consultés bientôt vous aussi au Parlement. Vous savez que votre parole va engager le Brexit. Donc il est important pour vous de respecter le verdict populaire.
À quels autres défis Theresa May va-t-elle être confrontée durant son mandat ?
Je crois que c'est une femme qui va se retrouver en proie à plusieurs défis qu'elle devra conduire en même temps. Donc c'est une lourde tâche qui l'attend. Elle va devoir aussi attendre de savoir ce qui se passe au Parti travailliste, puisque le Parti travailliste subit également une crise interne assez importante. Elle va devoir affronter la question de l'Écosse, la question de l'Irlande. Elle va devoir faire face à ses partenaires européens. Elle a dû mesurer quand même l'ampleur de la tâche qui l'attend. La difficulté pour elle va être de devoir gérer tous ces défis à peu près en même temps, ou en tout cas de faire en sorte que les défis puissent être relevés à des étapes différentes. Je pense à l'Écosse notamment, elle aura plutôt intérêt à négocier avec Nicola Sturgeon, qui est le leader du SNP et Premier ministre écossaise, pour que l'éventuelle négociation avec l'Écosse puisse intervenir une fois que les négociations avec les partenaires européens auront été conduites.